présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène Julien Jean-Pierre.
Je me sens utile à la société, aux gens. C'est tellement merveilleux de pouvoir aider, soulager les autres. Je me sens devenir un saint. Tu sais, comme Saint-Luc. Tu te souviens, lorsque nous étions enfants, la passion que nous avions pour Luc? C'est merveilleux, tu sais. Dieu nous a donné la possibilité de faire des miracles. Regarde mes mains, mes simples mains. Elles sont capables de diagnostiquer où se trouve le mal. Rien qu'en touchant, en palpant. Et mes yeux, ils sont capables de voir en une seconde si tu es malade ou en bonne santé. C'est merveilleux, tu sais. Merveilleux. C'est merveilleux de se dire qu'il te suffit que tu sois là. Il suffit que je dise que je suis là, que je vais t'aider. Et voilà, tu ne souffriras plus. C'est la vraie vie. Mais c'est merveilleux. Tu as de la chance. Moi, je suis encore au séminaire. Mais je ne sais pas si j'aurai suffisamment de foi pour soulager les souffrances de l'homme. Charles regarda autour de lui. Mais tu m'avais dit que tu avais beaucoup de patients. De trop. Je fais des 16-18 heures par jour. Mais pourquoi toute cette misère autour de toi? C'est que mes malades sont pauvres. Mais t'occuper de mes fleurs, il faut que je m'occupe d'elles. Elle m'a dit que pour faire des économies, prendre une chambre pour deux. Je lui ai donné mon âge. Comme ça, elle sera moins tentée. Regardez-moi. Comme ça. Comme elle a l'air bête. Regardez-moi. Comme elle est fagotée avec cette robe verte. J'espère que c'est que je ne serai pas obligé de... Heureusement que la chambre a deux lits. J'espère c'est qu'elle va me laisser tranquille. Je ne veux pas être obligé d'avoir une corvée supplémentaire. Elle est trop moche. Et puis c'est fatigant. Faudra pas oublier de le prendre pour dormir. Je ne pourrai pas me masturber cette nuit. Elle serait capable de se demander ce que je fais. Heureusement, demain, seul, dans ma chambre. Pauvre Fleur. Si tu savais, bon, eh bien, nous n'allons pas rester indéfiniment comme ça, debout, l'un en face de l'autre. Faudra nous préparer pour la nuit. Vous allez dans la salle de bain, la première?
Oui, si vous voulez. Mais avant, j'aimerais savoir quel lit je dois prendre.
Prenez celui qui vous plaira.
Merci. Alors, celui qui est près du radiateur.
C'est ça. Choisis celui qui est le plus éloigné de la porte. Et du couloir, on entend le moins. La voilà qui déballe ses affaires. Sur le lit.
Oh, un déshabillé noir. Bon, eh bien, je vais dans la salle de bain.
Tiens, elle n'a pas fermé la porte. Si elle croit que je vais la suivre.
Achille, vous savez, surtout ne croyez pas que j'ai l'habitude d'aller à l'hôtel avec des hommes. C'est la première fois. Vous savez, je ne suis pas. Comment? Je n'entends pas. À cause du bruit de la douche. Je disais que j'étais pas comme ces filles que l'on voit maintenant. Elles sont comme les prostituées. Et puis, vous savez, moi, lorsque je me donnerai à une personne, ce sera pour de vrai. Lorsque j'aimerai vraiment la personne. Mais je suis incapable, autrement, de le faire. Je ne sais pas comment font ces filles. Je me demande comment elles font. Pour faire ou se laisser faire ce que l'on fait. Et les prostituées, comment font-elles? Vous savez, vous, comment ça se passe?
Oui.
Elles font comment? Ça dure pas plus d'un quart d'heure. Comment font-elles pour pas avoir d'enfants? C'est assez simple, vous savez. Elles nous donnent, vous savez pas quoi? Les microbes, vous touchez un corps qui n'a été touché par des tas d'autres. Après, nous nous lavons.
Bon, et bien voilà. La salle de bain est libre.
Merci.
Comme elle a l'air bête dans son déshabillé noir. Mon Dieu, elle est gourde, ses jambes et ses petits seins, qu'elle a l'air bête et gourde.
Lorsqu'il est sorti de la salle de bain, en slip, Clem a fait quelque chose. Mais il n'y a rien eu. Il s'est mis au lit, comme s'il était seul. Mais comment font-elles les autres filles? Si au moins je le savais. Mais non, je suis sorti de l'école à 20 ans et je ne sais rien. Au lieu de nous apprendre à broder, à jouer du piano, à quoi cela sert-il? Mais... comment font-elles les autres? Je ne peux tout de même pas aller le rejoindre dans son lit. Mais qu'y ferais-je? Quels gestes faut-il faire? Que nous font-ils? Il paraît que cela fait un peu mal. Et le sang. Pourtant, j'aimerais bien. Pourquoi n'est-il pas cherché? J'ai tout fait pour qu'il puisse. J'ai même dit des choses.
Elle se tourna vers lui et le vit dormir. Elle en était émue.
Il ressemblait tellement à un enfant. Une de ses mains pendait hors du lit. Elle avait une envie irrésistible de la lui baiser. Elle fut réveillée par Achille, qui la secouait. « Bonjour, il est l'heure. » Elle avait la tête lourde et était de mauvaise humeur. Elle resta un moment en lit. Lui alla se raser, pas dans la salle de bain, mais au lavabo de la chambre. Il aurait bien pu mettre un pantalon tout de même. C'est indécent. Elle aperçut son déshabillé et eut honte. Regardez-moi ça. Ça fait l'aune. Ça se rase. Ça a trop duvet sur la figure et ça se rase. Il est mignon tout de même. Pas trop de poils. Il n'en a ni aux jambes ni sur la poitrine. Elle soupira. Franchement, il est vraiment indécent. On dirait qu'il prend des poses devant son labo. Et ce type, regardez-moi ça. On dirait pas un peu? Oh, il doit être pédé. Ça ne m'étonnerait pas. Regardez-moi ce type. Il cache juste, et encore, ce qui doit être caché. Il ne cache même pas les poils du devant. Et ses fesses ressortent de tous les côtés. Il donne des sens. Et sa façon qu'il a de se courber. Non, c'est un PD. Ça ne m'étonnerait pas. Il n'a pas de chance tout de même. Je me disais bien, il n'est pas plus moche qu'une autre. Et puis il paraît que les hommes ne regardent pas trop. Tu n'as pas de chance, ma pauvre fille. Pour une fois que tu couches avec un homme, t'en es pas un. marchait dans la ville. La nuit tombait, les lumières de toutes les couleurs scintillaient, la foule des gens se pressait. Jean ne voyait rien de tout ça. Il était dans ses pensées. Il se disait que toute sa vie, il s'était trompé. Sa vie était comme si ce qu'il venait de faire ou de chercher avec cette prostituée. L'absolu existait-il? Où se trouvait-il? Au lieu de rechercher l'utopie, ne valait-il pas mieux servir, aider son prochain? Mais comment? Sûrement pas avec des mots, bien certes, mais abstraits, comme noblesse, pureté, grandeur, etc. Une personne qui souffre demande à l'aider. Mais sûrement qu'elle n'a rien à faire de tout ça. La religion, les religions, c'est la même chose. Être aidé sans être aidé par une personne qui est et qui n'est pas. La philosophie, c'est qu'un jeu de mots. On choisit un mot, et sur ce mot, on bâtit tout un monde. L'homme qui souffre vraiment a besoin d'un coup de main et non d'un coup de mot. Charles marchait sans savoir où il allait. Il ne voulait pas rejoindre ses amis. Il ne voulait pas les rejoindre. Sans avoir mis de l'ordre dans ses idées. Car il savait que s'il allait les rejoindre, ce serait d'une façon définitive. Et que ce serait un choix sans retour. Un choix de vie définitif. Charles, sans s'en rendre compte, se trouvait dans une rue déserte et étroite, aux maisons tristes et délabrées. Il marchait. En passant devant une allée, il foutait le collet violemment et poussait dans l'allée. Sa surprise fut si grande qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il ne cherchait même pas à comprendre, à se défendre. Dans l'allée, fut plaqué contre le mur. Donne-moi ton fric ou je te flingue. Charles ne répondit pas. Il se trouvait dans l'obscurité. Il ne voyait pas la personne qui lui parlait. Il sentait simplement des mains qui l'étranglaient et un visage qui était tout près du sien. Il ne sentait pas le visage, mais plutôt la chaleur qui se dégageait du visage. De l'allée, on voyait la rue, car la porte d'entrée n'était pas fermée. La rue était éclairée. Dans la mêlée, la valise de Charles était restée devant la porte de l'allée. Il la vit. Elle lâcha Charles et alla la chercher. Charles retrouve ses esprits et se met à courir dans l'allée. Mais dans le sens opposé à la sortie, puisque l'inconnu était vers la sortie. Il arriva au fond de l'allée, devant une montée d'escalier. L'autre, avec la mallette à la main, se mit à lui courir après. En montant les escaliers, en se cramponnant au mur, sans le savoir, il appuya sur le bouton de la minuterie. Une lumière jaune, sale, éclaira l'escalier, rempli d'immondices. Charles se dépêchait, l'autre approchait de plus en plus, près de lui. Arrivé au premier étage, il trouva une porte d'entrée. De toute sa force, il se mit à taper, à hurler. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Les cheveux défaits, sa cravate de travers. Au dos de sa redingote, l'on voyait une tache blanche. Il tapait, tapait. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Il s'était même pas rendu compte que l'autre était derrière lui. Au secours! Il n'y a personne. La maison est vide. Est vidée de ses occupants. Charles se retourna. Se plaqua sur dos contre la porte. Et se laissa descendre. Il resta assis, les jambes allongées, la tête et le dos plaqués contre la porte. L'autre restait debout, devant lui, la mallette à la main. Il regardait. C'est idiot, j'ai pris peur. Peur de quoi? De la mort? De perdre mon argent? L'autre va s'asseoir à côté de lui. Tu peux la garder, ta valise. J'ai plus besoin de rien. Charles se tourna et vit un jeune homme de 20 ans environ. Il était assez grand, mince. Son visage, avec des cheveux châtains, ne manquait pas de charme. Pantalon de velours gris et pull marron, le tout sale. Alors, pourquoi? Bien sûr, toi, tu ne peux pas comprendre. Avec ta bonne mine, tes vêtements coupe-tailleur, ta belle tête un peu enfant. Tiens, tu ressembles à Alain Delon à ses débuts. Qu'est-ce que tu peux connaître de la vie? Avec ta petite vie bien tranquille, ton petit monde bien à toi. Oui, bien sûr, quand tu veux savoir ce qui se passe, ce que c'est qu'un pauvre, tu te plonges dans tes bouquins. Ne dis pas cela, moi j'ai voulu... Voulu quoi? Comment peux-tu vouloir? Quelqu'un que tu ne connaissais pas? Moi, ma vie, mon monde à moi, se trouve dans l'humidité, la saleté, la nuit. Je suis né dans un monde, dans ce monde, et je dois y rester. Votre monde à vous. Mais toujours, il m'en sera toujours interdit. Je vis dans un monde sans loi ni foi. Il faut lutter pour vivre, se nourrir. Je me suis prostitué, j'ai volé, j'ai même fait plus. Depuis l'âge de 14 ans, je ne sais pas ce que c'est que de dormir dans un lit. Je suis toujours en fuite. Cache parmi les rats. Je suis en guerre contre vous tous et vous êtes en guerre contre moi. Tu crois qu'il y a un autre monde? Une fois, j'avais 12 ans. Ma mère me mena avec elle dans une maison où elle devait aider à la cuisine. C'était une grande maison, un hôtel particulier, comme ils disent. On mena ma mère et moi à la cuisine. Ma mère me fait asseoir dans un coin. Au bout d'un moment, je m'ennuyais, je me levais et sortis. Elle ne fut pas ma surprise. Alors ce fut comme dans un rêve. Je visitais des pièces. Il n'y avait personne. Je n'avais jamais vu autant de belles choses. Tout était velours, lumière, dorure. Je n'en croyais pas mes yeux. J'étais tellement émerveillé que je ne me rendais pas compte que dans la maison, il y avait un orchestre invisible à mes yeux qui jouait des valses. J'étais tellement enivré que pour moi, la musique faisait partie intégrante de tout ce que je voyais. J'ouvris une des portes et je vis dans la pièce une jeune fille à peu près de mon âge qui se trouvait devant un miroir, debout, les mains derrière le dos. Je ne fus pas du tout surpris de voir cette jeune fille car elle faisait partie de ce monde. Elle se retourna. Je vis qu'elle était fort belle. Elle me prit les deux mains et me donna un baiser. Je m'appelle Fleur. Ensuite, je suis retourné à la nuit. Vous rêviez de luxe ? Non, de lumière. De luxe ? Non, de lumière. J'en avais assez de ce gris, de cette crasse. Et 14 ans, je lui fais prendre pour avoir volé une mobilette. Après, la maison de correction. Ensuite, j'ai vécu en dehors de la société. J'ai tout fait, absolument tout. Maintenant, je suis prisonnier de ce monde. Je ne peux plus m'en sortir. Tu aimerais t'en sortir? C'est impossible. Car pour s'en sortir, il faudrait que vous me pardonniez ce que j'ai fait. Mais on ne pardonne pas. Il faut payer. Pourquoi cherches-tu le pardon? Tu pourrais tout simplement payer. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin en plus de ma vie de sortir de mon arbre de la nuit. Va voir un prêtre? Un prêtre? La religion, non. Ils font partie du monde. Dieu, c'est pareil, Dieu, la religion, les prêtres. Non, car Dieu n'est d'aucune religion. Dieu n'appartient à personne et à tous. Comment pourrait-il Dieu, mais comment pourrait-il me purifier? Mes horreurs, j'ai même tué. Crois en lui, sois sincère en demandant pardon à tes péchés. Il te pardonnera. C'est tout? Non, une fois que tu croiras en lui, Il fera de toi un homme nouveau, sans péché. Je ne pécherai plus, tu ne devras plus pécher. Comment? En aimant ton prochain comme toi-même. Et je verrai la lumière. Si tu veux la lumière, Dieu te la donnera. Il te protégera des tourments de ce monde. Comment faut-il faire? Vous dites en votre corps, mon Dieu, je vous aime. Mon Dieu, je vous aime. Ensuite, vient une grande émotion. Il s'empara de Charles. Il prit la main du jeune homme et ils se levèrent. Ils ne se dirent rien. Leur visage était illuminé par une grande grâce. Ils vont droit vers le lavabo qui se trouve sur le palier. Charles ouvre le robinet. Lui dit, lui prit la tête. Tu veux bien? Oui. Mets la tête sous le robinet. Comment t'appelles-tu? Emmanuel. Emmanuel, au nom de Dieu, sans l'aide de la religion, je te baptise. Relève-toi, Emmanuel. Emmanuel se releva, les cheveux, le visage trempé. Émus tous les deux, pleurez. Oui, dit Charles, c'est comme si tu venais de naître. Ton âme est pure. Avec l'aide de Dieu, tu pourras purifier ta vie, vivre dans la lumière. Mais les autres hommes, je suis toujours le même pour eux. Dieu ne veut pas que l'on juge. Il n'y a qu'une justice, la justice divine. S'assoit à terre. Emmanuel mit la tête sur l'épaule de Charles. Charles tremblait de tout son corps. Il se sentait heureux et fort. Cette tête sur son épaule semblait avoir l'humanité sur ses épaules. S'achevait, dehors le bruit de la rue renaissait. Il va falloir sortir et se perdre dans ce monde. J'ai peur. N'aie pas peur, Emmanuel. Dieu te protège. Tu n'es plus seul maintenant. Oui, monsieur l'agent. C'est bien dans cette maison qu'il se trouve. Je l'ai bien reconnu, vous savez. Il m'a pris mon sac en plein jour.
Bien, madame. Il n'est pas 6 heures, mais nous attendrons.
Pas la peine, monsieur l'agent. Regardez, il sort.
Manuel vient de sortir.
Halte là !
Emmanuel voit l'agent qui se précipite vers lui. Il prend peur, se met à courir. La rue est vide.
Arrêtez ou je tire !
Emmanuel court, court, de plus en plus vite.
Mon Dieu, protégez-moi !
Il s'arrête d'un coup. Tombe à terre, la tête en avant. Charles, qui le suivait, se précipite vers lui, le retourne et lui met la tête sur ses genoux. Un grand trou rouge sur la poitrine. La balle a traversé de part en part. Il n'est pas encore mort. Il lève légèrement la tête et dit:
oh, la lumière,
le soleil vient de se lever et illumine le visage de l'Emmanuel, mort dans les bras de Charles.
Faisait très chaud. Hélène se sentait très lasse. Martin lui tendit sa tasse. Elle la prit machinalement. Le thé ne lui disait rien aujourd'hui.
Achille semblait satisfait d'être de retour. Il ne savait pas s'il avait réussi ses examens, mais il s'en moquait. L'essentiel, c'était d'être ici, en sécurité, près de Fleur. Depuis qu'il était revenu, il restait des heures en extase devant elle, sans rien dire ni rien faire. Alexandre disait son journal. On parlait de plus en plus de guerre. C'est marqué en gros caractères. Allons-nous avoir la guerre?
Il paraît que les risques de guerre se font de plus en plus proches.
Nous sommes embêtés. Les nouvelles se font de plus en plus rares. Les journalistes grossissent la moindre petite information. Tu le sais mieux que nous, Alexandre.
Oui, bien sûr. Hélène, mais il paraît que cette fois, ce sera très sérieux.
Que risquons-nous? Nous sommes ni juifs ni communistes. Que vient-il faire chez nous? Dans notre jardin? Ne croyez-vous pas qu'il y ait la guerre, que nous risquons de perdre notre tranquillité?
La guerre, c'est pour les autres, pas pour nous. Ils savent trop bien qui nous sommes.
Ne risque-t-il pas de mobiliser nos garçons?
Non, Hélène. Ils savent qui nous sommes. Et puis, zut, qu'ils se battent entre eux. Cela ne nous concerne pas.
Moi, du moment que j'ai monté, dit Hélène.
Pourquoi cette guerre? Demanda Eric.
Excusez-moi, je l'entends. Je dois y aller.
Hélène sortit de la pièce en courant.
On dit que la Bolchevie veut envahir la Hongrie. Nous sommes alliés à la Bolchevie. Et puis ce n'est pas que ça. On dit que la Bolchevie fait, dans différents pays, des raptes de personnes appartenant à certaines races. Elle s'en sert comme cobaye.
De toute façon, nous appartenons à une famille dont les origines sont pures, dit Eric.
Se trouvait dans la chambre de Patrick. Elle observait en se disant que son fils était fort beau. La maladie n'avait pas nui à sa beauté. Bien au contraire, ses traits s'étaient affinés, sa peau était devenue plus délicate.
Mon pauvre chéri, tu es venu chez nous pour souffrir. Quelle est cette maladie que tu as prise au dehors? Si tu étais resté chez nous, tu ne serais pas malade en ce moment.
Il était calme, semblait dormir. Elle lui caressa les cheveux.
Pourquoi ne parles-tu pas? Et sa souffrance qui t'empêche de parler?
Hélène se sentait lasse et fatiguée. La chaleur la rendait triste.
Le thé et firent leur promenade dans le parc. Il faisait encore très chaud et lourd. Le
soleil donnait mal aux yeux et il piquait à travers les vêtements, mais sous les arbres, on recevait encore une certaine fraîcheur. Ils marchaient dans les allées du parc, deux par deux, les uns derrière les autres. On parla et fatigué. Fleur aurait aimé s'étendre, être dans sa chambre seule, et se sentait lasse à cause d'Achille. Sa façon qu'il avait de la regarder, elle l'aimait, oui, mais elle tenait aussi à sa tranquillité. Elle ramassa dans l'herbe une marguerite et continua son chemin. Achille marchait à côté de Fleur. Il aimait voir son visage éclairé de différentes façons. En passant sous les arbres, les feux servaient de cache aux rayons du soleil, ce qui faisait que chaque fois que Fleur avançait, la lumière changeait de place et son visage semblait se transformer.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.